Nous sommes le mercredi 15 novembre 2023, il sont 11h et nous vous souhaitons la bienvenue au Club La Presse que vous écoutez sur les antennes de Radio Canal FM, mais également sur les ondes des radios partenaires depuis Anéro jusqu'à Dapaon, en passant par Atakpamé, Sokodé, Bassar et Niamtougou. De même que vous nous écoutez également sur les radios numériques dans le monde entier. Cette émission réalisée et mise en onde par Victor Gwe Kokou, Michel Tomenga et Jérôme Dakoucha. Je suis Kodjo Tété Innocent Saskaou, en titre Innocence pour vous servir. Et j'ai déjà autour de moi deux confrères. Nous attendons encore un, voire deux autres. Et comme c'est une tradition, nous démarrons le Club La Presse par une pensée du jour. Et aujourd'hui, nous nous inspirons de cette longue phrase de Voltaire, dont nous donnons seulement cet extrait. Quand Voltaire dit que le voleur ordinaire est traqué par la police, alors tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par une escorte de police. Encore une fois, c'est Voltaire qui l'a dit et que nous reprenons pour nous tous. Voltaire donc qui écrit que, la phrase est plus longue, nous prenons seulement l'extrait, quand il dit que le voleur ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par une escorte de police. C'est mercredi, nous allons parler naturellement santé par la voie de santé éducation. Ici représenté par son grand patron, Basile Anna Minyake. Bonjour.
Bonjour Innocent et bonjour à nos fidèles et auditeurs et auditrices. Parce que ça fait quelques bouts de temps. Ils n'ont pu écouter ma voix.
Je pense mais santé, éducation, oui, répond souvent présent au Club La Presse.
Évidemment, évidemment.
Merci.
Évidemment.
Nous allons parler également des suites de cette douloureuse affaire de vol d'argent au domicile du ministre Adjé, avec les derniers développements que nous allons connaître avec les confrères, la revue de presse. Confrère déjà à nos studios, Fabrice Paton Pétiesi, bonjour.
Bonjour à toi Sas, bonjour à tous les auditeurs et beaucoup de courage aux confrères en difficulté en ce moment.
Merci. Et d'autres sujets que vous avez écrits dans vos journaux et dont nous allons choisir certains pour débat. Mais Fabrice, une fois n'est pas coutume, je voudrais que nous démarrions cette émission par le Mali. Et je sais que tu suis l'actualité. Chronique intitulée « Mali, les famans ont repris Kidal ». Le mardi 14 novembre 2023 doit être légitimement célébré comme un jour de gloire pour les forces armées nationales et tout l'État malien. Après plus d'une décennie sous occupation des rebelles djihadistes du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, en abrégé CSP-PSD, qui revendiquaient ouvertement le séparatisme et terrorisaient les populations dans tout le pays, l'armée nationale malienne a repris la ville symbole de Kidal hier le 14 novembre. Kidal, qui venait ainsi de rejoindre la longue liste des régions reconquises comme Gao, Tombouctou, Menaka, ces régions autrefois occupées par les djihadistes et qui viennent d'être reconquises en deux années du pouvoir de la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta. Et ce que les troupes françaises de Serval, les contingents onusiens de l'amunissement ou européens de Takuba et même la force commune sous-régionale du G5 Sahel n'ont pu réaliser, malgré leur technologie, malgré leurs services de renseignement, malgré les avions, malgré les satellites et malgré les troupes au sol, ce que tout ce groupe-là n'a pu faire en 10 ans. L'armée malienne, assistée des conseillers russes, vient de le réaliser en 2 ans. Et ceci pendant que le Mali croupit sous de lourdes sanctions de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des puissances occidentales et même de l'ONU. Le retour de l'armée malienne à Kidal est une importante victoire d'étape contre le terrorisme. Mais il reste que l'État malien réussisse à faire prévaloir sa souveraineté effective et son administration civile sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce même succès que nous souhaitons au Burkina Faso et au Niger. Fabrice, pour dire que le fait que l'armée malienne reprenne pied à Kidal, c'est vraiment un symbole.
Oui, un grand symbole. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire félicitations à l'armée malienne et surtout félicitations aux autorités maliennes qui ne sont pas bien arrivées au pouvoir, mais qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, produisent de très bons résultats. Alors, vous avez cité toutes les missions qui ont été envoyées dans cette partie de l'Afrique pour assurer l'intégrité des territoires, mais qui n'ont jamais réussi. Alors, ça voudrait dire que le débat est relancé sur la réelle volonté parfois de ces puissances-là de nous aider à régler nos problèmes. Puisque au moment où la France annonçait son départ, certains partaient que après eux, ce serait le déluge. Et finalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que leur départ a permis aux Maliens de prendre en main leurs responsabilités et de régler un problème. Parce que Kidal, aujourd'hui, retombe dans les mains des forces loyales, ou du moins dans les mains des Maliens. Je crois que on peut quand même dire que les autres doivent tirer des leçons de cette symbolique victoire-là pour organiser effectivement d'autres situations dans leur pays, parce que je crois que quand le Mali était tombé sous la main des djihadistes, des terroristes, ça a ouvert les vannes au niveau du Burkina, jusqu'à ce qu'aujourd'hui notre pays également est touché par le phénomène. Donc ça voudra dire qu'on peut s'organiser pour régler nous-mêmes nos problèmes, et qu'à un moment donné, ceux qui prétendaient nous aider ne nous apportaient vraiment pas cette aide-là. Maintenant, j'attends dire, bon, une chose est de libérer Kidal, une autre est de pouvoir maintenir. Moi, je crois que au moins réussir à repousser les occupants, c'est déjà une très grande victoire. Ce que en plusieurs années, comme tu l'as bien dit, ces puissances-là, malgré la puissance de feu qu'ils ont, le matériel technologique qu'ils ont, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le Mali et ses partenaires ont réussi quand même une prouesse.
Merci. Le Mali, en fait, l'armée malienne qui vient de reconquérir Kidal, après Gao, après Tombouctou, après Menaka et toutes les régions qui étaient encore sous le contrôle des djihadistes terroristes il y a quelques mois. C'est ce même succès que nous souhaitons au Burkina Faso, que le Burkina également puisse reconquérir l'entièreté de son territoire et y fasse prévaloir l'autorité de l'État. Même chose pour le Niger, et ainsi les pays voisins côtiers comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, nous serons plus en paix. Mais Sylvestre Béni, une chose est de gagner la guerre, une autre consistera pour le Mali et ses pays voisins de vraiment gagner la bataille de la paix.
Oui, lorsque vous voyez, d'abord bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, lorsque vous voyez le communiqué donc du Burkina Faso, il a dit que c'est une victoire d'étape. Mm-hmm. Hein, c'est ce que Ibrahim Traoré donc, a écrit. Et là, ça prouve véritablement qu'il reste encore d'autres défis. C'est vrai que la France est restée longtemps, pendant 10 années, hein, est-ce que la France n'a pas réussi? Ou est-ce que la France voulait véritablement le faire? Puisque la France a quand même toute la puissance militaire nécessaire pour chasser en quelques jours, comme l'ont fait les FAMA en moins d'une semaine, ils sont arrivés à Kidal. Mais est-ce que la France voulait le faire? Sinon, ils devaient le faire. Ils avaient la puissance de feu nécessaire pour, en 4 jours, finir avec Kidal. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, on constate qu'il y a une réelle volonté de ne pas le faire. Une fois qu'ils sont partis, les FAMA l'ont réussi brillamment en une semaine. Donc, on espère quand même qu'ils vont réussir donc à pacifier le pays. parce que de l'autre côté aussi déjà les organisations donc des droits de l'homme, on connaît un peu aussi leurs sources de financement, commencent par dire oui, il y a des actions, il y a des ci et là, et ils vont commencer à chanter et tout ça, bon, comme ils le font d'habitude, mais il faudrait véritablement aussi que les femmes aussi savent mieux sécuriser les pays pour qu'il n'y ait pas trop donc de voies de fait, trop donc de victimes collatérales de cette guerre, pour que la paix puisse revenir donc dans le Sahel. Et je suis convaincu que une fois qu'on aura la paix dans cette zone là, la zone du Sahel, je crois que avec ce que nous voyons aussi au nord du Togo, je crois que on pourra également réussir à damer le pion à ces terroristes là qui, je le rappelle, pour l'instant, ils n'ont plus réussi à s'implanter sur le territoire togolais, mais ils viennent seulement pour des incursions et repartent.
Merci. Les forces armées maliennes viennent de nous démontrer ce que nous chantons déjà. À cœur vaillant, rien d'impossible. La France avec Serval, les Nations Unies avec la MINUSMA, l'Union Européenne avec la force Takuba, il y a même le G5 Sahel et toutes ces puissances amies, à supposer amies, mais pendant des années, malgré les tonnes d'argent et de matériel, le Mali était toujours occupé en grande partie par les djihadistes. Il a fallu que le Mali se départisse de tous ses amis pendant que le Mali est sous sanction, même de la sous-région. Oui. L'Union européenne, l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, même les Nations unies, je ne cite même pas les pays, tout le monde a privé le Mali de ses ressources, mais le Mali a quand même su trouver des amis, notamment du côté russe. Est-ce que c'est les conseillers officiels russes ou bien est-ce que c'est les miliciens de Wagner? Un autre débat reste ouvert.
Peu importe
c'est que le Mali est en train de reconquérir son territoire. Et ironie et comme par hasard, et le Togo aussi a participé à la force MINUSMA. Et aujourd'hui, le confrère Togo Matin nous rappelle qu'il y a quelques heures, le dernier bataillon togolais de la MINUSMA a regagné le Mali. Non, il a fallu que tout le monde là quitte le Mali pour que les Maliens eux-mêmes reprennent leur territoire. Que ce qui se passe là-bas serve de leçon. Mais Fabrice, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Les Goïta au Mali, comme les Ibrahim Traoré, comme les Tiani au Niger, nous devons leur rappeler qu'ils sont arrivés au pouvoir par des voies non démocratiques.
Oui, par des voies non démocratiques. Je crois que c'est pour cela, au niveau de la CEDEAO, il y a ce débat-là. C'est-à-dire qu'il faut trouver des circonstances atténuantes, prendre les choses cas par cas. Alors, ailleurs, au Mali, aujourd'hui, ils ne sont pas bien arrivés, mais ils produisent de bons résultats, puisque nous avons aussi des pays où les gens sont très bien élus, mais après, ce qu'ils font comme boulot, ça ne satisfait pas les populations. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut gérer les choses cas par cas. Et dans le cas du Mali, on constate que c'était la thérapie de choc qu'il fallait. Aujourd'hui, il y a les résultats. Plaise à Dieu qu'une fois l'intégrité du territoire retrouvée, le Mali va s'organiser pour repartir sur les bases démocratiques. Que vaut la démocratie s'il n'y a pas la paix? Je crois qu'on n'en aura pas besoin.
Nous souhaitons vivement que les militaires maliens retrouvent toute l'autorité de leur État sur le territoire. Ce que nous souhaitons également pour le Burkina, pour le Niger, pour le Gabon et pour le Tchad, et que ces militaires arrivent à organiser de très bonnes élections, passer la main aux civils avec l'espoir que les civils vont réussir à perpétuer le travail de souveraineté et de bonne gouvernance.
Faut enlever le Gabon dedans.
Le Gabon n'est pas victime de théorie, oui. Mais le Gabon également a fait un coup d'État.
Oui.
Et depuis hier, les autorités militaires gabonaises annoncent qu'elles organiseront des élections en août 2025.
Je crois qu'il y a l'intérêt de banque, la légalité, la légitimité se pose. Parfois, oui, vous pouvez être légal, vous avez toute la légalité, l'autorité possible, mais sur le terrain, on ne voit pas le résultat. Aujourd'hui, ceux qui sont donc du côté donc du Sahel, notamment les capitaines Goïta, Ibrahim non, et
Goïta
puis...
Goïta colonel.
Oui, bon, Goïta colonel, le général, Traoré capitaine et puis
Etienne
Tiani général, ils ont aujourd'hui la légitimité du peuple. Vous savez, c'est vrai que bon, ils n'ont pas la légalité puisque ils sont venus donc par voie anticonditionnel, mais ce sont ceux qui sont venus par des canaux de travers, si on peut le dire ainsi, mais qui aujourd'hui font la fierté donc du peuple. Donc, chapeau à eux, et je crois que c'est en cela où parfois aussi il faut choisir la légitimité plutôt que de la légalité.
Cet éternel débat entre la légitimité et la légalité. Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Jalou.
Merci de nous avoir rejoints.
Oui, c'est nécessaire.
Tu es en bonne santé.
Je suis en bonne santé.
Maintenant, nous enchaînons avec la santé justement. Basile Mignaké, rebonjour.
Rebonjour, Innocent.
Alors, ce n'est pas une devinette. Hein. Oui. Mais si je te demande, quelle est cette maladie qui se révèle la cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accident cardiaque, d'accident vasculaire cérébraux, d'amputation des membres inférieurs, etc. C'est quelle maladie ça?
C'est ce que nous venons de célébrer hier.
C'est-à-dire le diabète. Eh bien, pour nous qui ne le saurions pas, nous rappelons que des études scientifiques avérées révèle que le diabète est cause majeure des maladies comme la cécité quand on perd la vue, d'insuffisance rénale avec ses très graves conséquences, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. Nous voyons les conséquences de cette maladie autour de nous, mais le diabète est guérissable, Basile.
Oui, pas tout à fait ça, parce que ça dépend des acteurs. Si on prend les médecins, le corps médical, ils disent qu'il faut prendre les traitements à vie. Mais si tu prends aussi d'autres naturopathes, ils disent que le diabète est guérissable. C'est un peu relatif, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez toutes les tendances, ça dépend du traitement qu'on apporte. Il y a des traitements naturels qui ramènent l'organisme à se stabiliser et à ce que l'organisme fonctionne au mieux. Donc, qui n'engendre plus des pathologies, des bobos, l'urine à plusieurs fois, ou bien les fatigues, tout ça. On sait que lorsqu'on apporte certains traitements adéquats, l'organisme reprend.
Merci. Je cite la suite de cette étude qui dit que le diabète peut être traité et ses conséquences évitées ou retardées grâce à un régime alimentaire, à l'activité physique, à la médication ainsi qu'à un dépistage et à un traitement régulier des complications. Eh bien, hier 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète. Le groupe Santé Éducation a marqué cette journée par des activités symboles.
Oui, tout à fait. Nous avons, parce que nous voudrions vraiment sortir de cette connaissance un peu générale et pour des actions proactives et puis individualisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons cette connaissance-là que le diabète tue, le diabète, on appuie tout ça là. Mais on n'arrive pas à aller vers des actions. C'est-à-dire que informer, éduquer, appeler les populations au dépistage. Parce qu'aujourd'hui, ces actions doivent aller ensemble. Informer que les gens aient davantage de connaissances sur cette maladie, que les gens là, l'appliquent aussi et qu'on puisse faire aussi le dépistage, parce que c'est le dépistage qui va montrer l'état de notre santé. Est-ce que nous sommes hyperglycémiques, ou bien nous sommes hypo, ou bien nous sommes dans des fourchettes normales? Donc il faut toutes ces actions là pour amener nos populations.
Et c'est ce que vous avez fait hier.
Avec les enfants, parce qu'on a commencé avec les enfants. Il est bien vrai que au collège protestant, ce sont les tout premiers responsables qui nous ont approchés de venir sensibiliser les enfants. Vous savez, c'est un temple de connaissances. Si on voit l'historique du collège protestant aujourd'hui, si vous voyez dans l'administration publique aujourd'hui, certains hauts cadres ont passé par cet établissement. Et donc, aujourd'hui, il ne suffit pas de donner encore cette loi, mais s'assurer que ces enfants qui vont merci. Arriver dans 10 ans, dans 15 ans,
a produit
vont,
des cadres, mais voilà. Le siège de Haoté aussi a
oui,
produit.
Oui, oui, oui.
Le collège Chaminade aussi oui, a produit.
Oui, mais notre oui, il faut commencer à quelque part.
Qui nous ont formés.
Voilà.
Donc, vous êtes allé au collège protestant et dans d'autres écoles, vous avez sensibilisé c'est aussi bien les enseignants que les élèves sur la problématique du diabète, oui, notamment c'est, le dépistage précoce.
C'est ça. C'est pour le... Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les formations sans sanitaire, les enfants aussi sont diabétiques, les adolescents. Donc, pour dire que ce n'est pas une maladie réservée qu'aux adultes ou bien aux personnes âgées, mais à la base aussi, hein, les adolescents aussi traînent ces maladies. Donc, il faut renforcer leur connaissance, leur faire comprendre ce que c'est cette maladie et comment est-ce que ces enfants aussi à la maison... Ils ont des parents aussi diabétiques comprennent l'accompagnement qu'ils peuvent apporter à ces parents-là.
Et donc notamment c'est... la nécessité de faire le test de glycémie, c'est ce test qui nous fait voir si nous sommes sains ou bien si nous sommes malheureusement candidats à plus ou moins brève échéance.
Oui, oui, on ne peut pas voir une personne à l'œil nu comme ça et puis dire que la personne sans passer par ce test de dépistage. Donc c'est de leur inculquer qu'à tout moment ou bien inextenso de leur parcours scolaire, ils sont amenés aussi à connaître aussi leur taux
merci,
et puis éviter fois. Surtout oui. éviter, faire tout et tout pour éviter cette maladie.
Éviter parce que les conséquences sont graves.
Vous venez de la citer.
Nous ne voudrions faire peur à personne, mais je reprends encore vos articles. Les complications liées au diabète. Comment le diabète peut affecter le foie, le diabète et le système nerveux, les conséquences du diabète sur nos yeux, les complications même bucco-dentaires jusque dans notre bouche, ou encore diabète et risque de dépression, pied diabétique avec risque d'amputation, insuffisance rénale, même le diabète qui peut affecter jusqu'à la sexualité dans les couples, les complications cardiovasculaires, les troubles de sommeil et tout ça là, encore une fois, il ne s'agit pas de nous faire peur, mais de nous faire toucher du doigt les conséquences de cette maladie. Et des maladies quand même qu'on peut prévenir, notamment en faisant le test à temps, et également par l'alimentation, notamment vous nous recommandez les feuilles de manguier. C'est pas pour manger, hein.
C'est pas pour manger. Enfin, ouais, c'est pour faire une infusion.
Une infusion.
Donc, ce qui est important de ce que vous êtes en train de dire, c'est que on peut ramener l'organisme à bien fonctionner normalement et se soustraire même de cette maladie-là. C'est une information avérée scientifiquement que nous apportons à nos fidèles auditeurs aujourd'hui que on peut se soustraire vraiment de ces pathologies en adoptant vraiment une hygiène de vie adéquate, en dormant, en faisant du sport. Je pense que le gouvernement même, c'est dans ce sens qu'on a instauré
le dernier samedi, journée nationale du sport.
C'est symbolique, mais au moins chaque jour, 30 minutes par jour, ou bien 3 fois dans la semaine, suffiront largement pour que vraiment on puisse ramener de l'ordre.
Merci, mais on peut également guérir, mais surtout prévenir le diabète par une alimentation adéquate. Et du diabète, allons à cet article intitulé « Peut-on soigner avec un aliment ?» Et là, c'est une tribune du professeur Mustapha Mijioa, ministre de la Santé, qui nous produit cette tribune que vous publiez dans vos colonnes.
Oui, Innocent, ça nous a fait énormément plaisir en écoutant le ministre de la Santé prendre position vis-à-vis de cette problématique. Aujourd'hui, il y a des avis qui divergent. Donc, et cet article publié sur le blog du professeur Midi Yama qui disait que tant que tu peux soigner avec les médicaments, ne soigne pas avec. Tant que tu peux soigner avec les aliments plutôt, tant que tu peux soigner avec les aliments, ne soigne pas avec les médicaments. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Innocent, depuis que nous avons commencé à écrire dans Santé Éducation, nous n'avions jamais cessé de dire que notre aliment est notre tout premier médicament, a dit le maître de la médecine
Hippocrate.
Et donc aujourd'hui, les données scientifiques l'ont prouvé que les aliments que nous consommons chaque jour pourraient être des médicaments pour soigner ou bien prévenir d'autres maladies qui peuvent nous déstabiliser. Et donc, ce que le professeur Mudiawa a dit en tant que maître de la place, en tant que professeur, en tant que ministre de la Santé, nous montre à suffisance que aujourd'hui, chacun dans son ménage, chacun où il se trouve, doit s'investir dans la bonne alimentation équilibrée.
Avec un aliment, cette position du professeur Mustapha Mijiawa, certains l'ont lu sur son blog. Santé éducation vient de le reproduire. Dans cette tribune, le professeur parle du pouvoir préventif et curatif des aliments. La santé des populations par l'alimentation. On lira cette tribune et le débat continuera. Merci Basile Mignaquet. Nous mettons 3 points de suspension, mais tu restes à nos côtés sur le coup de midi. Si les auditeurs le souhaitent, tu seras là toi-même pour répondre à leurs préoccupations. Pendant que nous abordons les suites de l'affaire de vol au domicile du ministre Adjei, nous vous en parlons au jour le jour depuis lundi. Et aujourd'hui, dans leur parution, les journaux reviennent sur les derniers développements, dont Actu Express qui parle de affaire de 400 millions volés dans la maison du ministre Adjei, deux journalistes encore jetés en prison. Le Libéral tire la sonnette d'alarme. L'histoire se répète. Deux journalistes envoyés en prison sur plainte d'un ministre, pendant que la manchette lui écrit « Le journalisme n'est pas un crime, libérez-les ». Alors Fabrice, en ta double qualité de directeur du journal Le Libéral et surtout de président de l'OTM, toi qui depuis lundi n'as cessé de faire des démarches ici et là, peux-tu nous faire le point de la situation pendant que nous sommes dans ce studio où sont nos confrères Loïc Lawson et Anani Soussou?
Alors malheureusement, nos deux confrères ne sont pas chez eux, c'est ce qu'on aurait souhaité, ou sur leur lieu de travail. Et selon les dernières nouvelles, ils seraient déposés à la prison civile de Lomé. C'est l'information que nous avons eue ce matin, puisque nous avions rendez-vous avec certains responsables d'organisation au niveau de la BRI pour voir s'il y a possibilité d'échanger avec les confrères pour voir quelle attitude adopter dans leur intérêt. Alors, ceux qui étaient là sur les lieux ont vu les deux camarades, les deux confrères embarqués pour la direction prison civile de Lomé. Donc, voilà la dernière information, malheureusement.
Merci pour ce point, Abbas Issaka. Loïc Lawson, Anani Soussou ont été convoqués à répondre devant la BRI le lundi à 10h. Pour une affaire les concernant. Cette affaire, c'est leur publication sur le vol perpétré au domicile du ministre Adjei, vol dont il estime le montant à au moins 400 millions de francs CFA. Les auditions ont conduit au fait qu'ils ont été accusés de diffamation, d'atteinte à l'honneur du ministre Adjei et même d'appel à la révolte. Et hier, donc, ils ont été conduits devant le substitut du procureur de la République. Après, ils ont été également présentés à un juge d'instruction. Et le résultat, c'est qu'un mandat de dépôt a été pris contre eux. Et depuis ce matin, ils croupissent en prison.
Oui, c'est dommage. C'est très dommage parce qu'on ne peut pas concevoir que c'est le même ministre. Ça fait 2 ans. C'est pas lui que deux journalistes aussi étaient allés en prison. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé.
Il y a 2 ans, le ministre Adjei également avec son collègue plus la Guintomé de la justice.
Cette année, encore 2 ans plus tard, c'est le même ministre, pas le même ministre, que nos confrères vont se retrouver en prison. Je crois que Fabrice l'a dit tout à l'heure, il y a des démarches. Est-ce qu'on peut faire de telle sorte que les journalistes soient restés à la maison et aillent répondre avec toutes les garanties possibles ou qu'on les libère sous caution, et que s'il y a des choses à faire au niveau de l'audience publique ou bien du juge d'instruction, ils puissent continuer à reprendre et que ce soit la prison qui les accueille, ils soient là-bas et puis on les fait sortir. Donc, on peut leur donner toutes les garanties. On ne souhaite pas la prison, même à son pire ennemi. Donc, il faudrait que la sagesse y règne, que cette histoire, je ne sais pas comment on va la qualifier, soit bien étudiée pour que nos confrères sortent de la prison. Ce n'est pas leur place là-bas. Leur place ne se retrouve pas à la prison. Leur place est à côté de leur famille. C'est au niveau de leur travail. Donc, ils n'ont commis aucun crime que de dire qu'il y a eu un vol dans une maison d'un ministre. Même si le montant qu'ils ont avancé auparavant était surestimé, mais il y a vol ou pas. Qu'on nous prouve qu'il n'y a pas vol dans cette maison du ministre. Donc, tout ça, tous ces paramètres-là doivent être étudiés. Maintenant, on les conduit, on les enferme dans une prison. On les comme des criminels. Eux, ils vont se retrouver avec des criminels dans cette prison. Qu'est-ce qu'il faut penser à ça? J'espère que je pense qu'il faut continuer les démarches et pouvoir les faire sortir de ce pétrin.
Continuer de cette prison, les démarches. Maintenant qu'ils sont déposés à la prison civile, je crois savoir que, selon la justice, la prochaine étape, c'est de souhaiter qu'ils soient jugés le plus rapidement possible. À moins que pas des tractations, l'OTMR là, oui, et bien peut-être, d'autres aussi.
Peut-être trouve, avant de donner la parole à Sylvestre, je voudrais faire une observation. Je ne comprends pas pourquoi, quand c'est ADJ, c'est la BRI, toutes ces institutions de l'État, et on peut aller là où on veut. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours là-bas, puisque le confrère vient de rappeler un mauvais souvenir. Il y a 2 ans, c'était là. Puisque tout le monde, nous tous, on connaît, on a sur nos langues, scric, scric, scric. À chaque fois qu'il y a un souci, presque tous les confrères se retrouvent. Mais je n'ai toujours pas compris, surtout avec le second cas là, pourquoi c'est toujours au niveau de la BRI que les confrères se retrouvent. Et puis la suite, on la connaît, c'est la prison. Il l'a dit, le lundi matin, les gens sont allés librement. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé les amener de force à la BRI. Ils sont allés librement répondre aux questions. On a passé toute la journée là-bas. Ils rentrent, ils ressortent. On sommes restés jusqu'à pratiquement 18 heures. Et c'est des gens quand même qui ont des intérêts dans le pays où on sait qu'il n'y a pas de velléité de fuite. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu prendre un engagement pour dire, nous l'avons fait avec certains confrères au niveau du SCRIC. On nous a juste demandé, ramenez-les demain, ramenez-les samedi. Et on est revenu, et personne n'a fui. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que Loïc et Anani Soussou soient dans la logique de fuir. Et surtout, qu'Anani Soussou, il paraît que lui n'était même pas au pays. Il était en Belgique. Quand la plainte, il est revenu au pays pour aller répondre à cette plainte-là. Donc, je ne sais pas ce qui urge pour qu'on puisse être obligé de garder ces gens, même la garde à vue d'abord. Parce qu'on a tous eu des problèmes. Tu vas, aujourd'hui, on dit, viens, tu vas, on t'interroge, tu rentres le lendemain. Il suffit de donner la garantie que tu ne vas pas fuir. Et dans cette affaire, Loïc même était en voyage. Donc, s'il avait envie de se dérober, il n'avait qu'à ne plus
revenir
et rester là où il est. Mais c'est des gens qui n'étaient même pas. Ils sont revenus. Et ils sont allés répondre. Et à un moment donné, même, le commandant leur a dit, sortez, allez manger. Ils ne sont même pas allés manger. Ils sont restés toujours. Allez boire. Ils ne sont même pas allés boire. Moi, j'étais là-bas. J'étais là-bas toute la journée de lundi. Ils sont même. Il dit, non, vous pouvez aller boire. Mais ils sont restés là-bas avec leur avocat. Bon, alors, dans ces conditions, pourquoi la détention? Moi, je ne veux même pas aller dans les faits pour dire qui a pris combien de millions, tout ça là. Non. Pourquoi la détention? C'est quoi le fait là-bas? Et on soit obligé de garder les gens. On a eu plein de plaintes comme cela, non? Aujourd'hui, l'huissier vous dit, bon, on dit vous êtes cité à comparaître. Vous y allez. C'est quand vous refusez d'aller que parfois, bon, on est obligé de vous faire amener de force. C'est ce que je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi c'est le choix de la BRI. Que la BRI m'excuse, je n'ai rien contre elle. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours là-bas on choisit. Et quand on arrive là-bas, le canevas, on le connaît.
Merci Fabrice. L'autre contraste, nous nous plaignons de la surpopulation carcérale. Nous nous plaignons de la lenteur. hein, des jugements. Et pour désengorger la prison, il y a quelques semaines, le chef de l'État a dû prendre une grâce, hein, pour écourter un peu les peines, hein, des prisonniers de droit commun, pour désengorger nos prisons. Et quelques semaines après, on renvoie en prison deux journalistes pour des publications dont le concerné estime qu'il a été victime. Soit, mais Sylvestre, ton journal dit justement que Loïc Lawson et Anani Soussou ne sont pas des criminels pour se retrouver en prison dans ces conditions, et le journal demande ouvertement à ce qu'ils soient libérés.
Oui, c'est la meilleure des choses et c'est la moindre des choses. Vous voyez, écoutez, les deux, on ne délivre un mandat de dépôt contre des gens qui sont susceptibles de fuir le pays. C'est-à-dire que on peut se dire, oui, peut-être qu'il peut s'évader. Donc, là, on vous garde, on vous donne un mandat de dépôt, le temps que vous répondez donc aux audiences, au procès et tout. Mais les confrères sont allés librement. Et pourquoi c'est toujours le ministre ADG? Je crois que il faut clairement poser la question, pourquoi c'est toujours lui? Dans ce pays, il y a un confrère avait tweeté, avait même publié sur les réseaux sociaux qu'il y a un ministre qui a été braqué dans sa maison, et on a pris son ordinateur, on a cité un certain nombre de choses. Est-ce que ce ministre est allé se plaindre? Est-ce que ce ministre est allé à la BRI pour que les confrères puissent comparaître et après c'est la prison? Pourquoi c'est toujours lui? C'est la question que nous devons nous poser. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas aller dans les détails. On dit, les confrères ont dit, affaire de 400 millions. C'est les mêmes confrères qui sont revenus en disant qu'une source nous dit que l'argent n'atteint pas les 400 millions. Mais pourquoi on parle de diffamation? Ils ont dit, il y a 400 millions. Après, les mêmes ont tweeté le jour même qu'ils devaient comparaître qu'une autre source nous dit que l'affaire n'atteint pas les 400 millions. Maintenant, ok, admettons que aujourd'hui personne ne conteste. Non, souffrez que je sois un peu porté en colère. Souffrez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous dit.
Je voudrais que tu maîtrises ta colère.
Non, écoutez, dans ces conditions, on ne peut pas maîtriser nos colères. Si, voyez-vous, écoutez, personne ne conteste le vol. Personne ne conteste qu'il y a braque et cambriolage. Personne ne le conteste. Les gens ont dit 400 millions. Il suffit que le ministre nous dise non, c'est plutôt 2 millions, c'est plutôt 3 millions. Et puis l'affaire est réglée. Mais combien, personne ne nous dit combien on a pris. Maintenant, on dit de différents. Bon, peut-être heureusement, la justice va nous dire combien on a pris.
Merci. Ce qui est évident, c'est que il y a eu vol au domicile du ministre ADG qui a porté l'affaire devant la police judiciaire. Nous n'avons malheureusement pas les secrets des enquêtes pour savoir exactement le montant qui a été dérobé au domicile du ministre. Et pendant qu'il se plaint que les confrères l'ont diffamé en élevant le montant à 400 millions, lui-même ne dit pas le combien a été volé à son domicile. Mais Fabrice se pose des questions tantôt qui ne sont pas anodines. À chaque fois que le ministre ADG se sent diffamé, il saisit la BRI et la suite on la connaît. Mais combien de fois nous journalistes, je ne fais pas l'apologie des fausses informations, de la diffamation, mais combien de journalistes n'ont pas écrit sur le chef de l'État? Combien de journalistes n'ont pas écrit sur les premiers ministres Dahomey Zounou, à Victoire Dobé, en passant par Klassou et les autres? Combien de fois les journalistes n'ont pas écrit contre des ministres dont certaines de ces autorités ont saisi l'OTM, d'autres ont saisi la HAC, d'autres même ont porté plainte à la justice? Mais les confrères impliqués dans cette affaire sont toujours restés libres, répondent aux convocations et reviennent. En temps même, je crois, le chef de l'État et la première ministre Dobé ont abandonné même certaines poursuites. Mais pourquoi ADG? C'est toujours l'esprit de vengeance pour punir.
D'intolérance.
Je ne sais pas, toi tu peux nous répondre un peu à cela?
Je ne sais pas ce que le ministre ADG a. Tu l'as dit tout à l'heure. Tout ce qu'on écrit sur Fonya Simbe, tout ce qu'on dit sur lui, parce que c'est la liberté d'opinion.
Si encore une fois, nous ne faisons pas l'apologie.
On ne fait pas l'apologie
de la diffamation
sur ce point.
Si,
si lui était à la place de Fonya Simbe, je crois que la presse ne devait même pas exister. Tous ceux-là qui parleront mal de lui vont aller dormir en prison.
À la BRI d'abord.
Et puis son choix de la BRI. Alors que toutes les affaires se traitent au script, le script, on sait comment ça se passe là-bas.
Il y a même des confrères qui ont été convoqués à la direction de la police judiciaire.
Qui sont passés par là. Mais pourquoi lui choisit la BRI? Ou bien il y a des gens là-bas que lui l'a placé pour dire que si j'envoie quelqu'un là, c'est directement à la prison, il faut l'envoyer.
Ça, c'est ça.
Donc, je ne sais pas, il se reproche de quoi? Il se reproche du fait qu'on dise qu'il a gardé de l'argent dans sa maison. C'est pour cela qu'il poursuit le journaliste parce qu'ils ont dit 400 millions. Ben, s'il dit qu'il n'a pas d'argent, il n'a qu'à dire, déterminer le montant qu'on lui a pris. Parce que le montant est là, qu'on l'a pris, on a dit c'est sur les messieurs revenus. Ben, il ne peut pas dire que lui, ADG, n'a pas de moyens. Il a commencé une bonne carrière. Il était directeur général de la douane. Il est venu faire le commissariat de l'OTR jusqu'à devenir ministre. Donc, ce qui veut dire qu'il peut avoir des moyens. Est-ce qu'il craint le fait qu'on dise qu'il a conservé de l'argent dans sa maison? Mais finalement, la justice va nous dire combien l'argent a été pris dans son domicile. Si lui-même, il ne veut pas nous dire. Ou peut-être qu'il va dire aux gens, dites que c'est ça qui était dans ma maison. Il ne va pas dire la vérité, mais c'est ça, alors que les journalistes ont déjà dit que c'est ça. Donc, ce problème-là, ADG n'a qu'à faire profil bas, aller retirer sa plainte pour que nos confrères regagnent la maison. Leur place
n'est
pas là-bas.
Merci. Alors, cette situation inspire les confrères de la Dépêche qui écrivent ce matin à la page 3 du Petrol Gate. Au vol de 400 millions, la presse privée togolaise sous pression. L'article dit que l'univers médiatique togolais est envahi par la menace de restriction de la liberté de presse. La presse privée togolaise soumise à une pression sans précédent. L'actualité nous renseigne. Mais une question de fond demeure. Oui, le ministre a été victime de vol dans sa maison. Les gens disent 400 millions, il dit que ça a été surestimé, mais lui-même ne dit pas combien a été volé. Alors, au cas où le montant serait important, que la loi dit quelle quantité d'argent un individu peut garder dans son domicile. Un jour ou l'autre, nous pourrions avoir réponse à cette question. Et suite à ce phénomène, des gens ont pris position, dont deux députés, Jerry Tamant et Abbas Kaboua, qui ont dit des choses, je me rappelle, dans une émission sur une radio, Abbas Kaboua met au défi le ministre ADG de porter plainte contre lui. Nous verrons ce qu'il en sera. Alors, suite à cela, il y a également la société civile qui vient de sortir un communiqué daté du 12 novembre dernier, communiqué dans lequel les organisations de la société civile demandent une enquête suite aux informations relatives à la possession d'une importante somme d'argent au domicile du ministre ADG, et ces OSC exigent du chef de l'État une bonne dose d'éthique dans la gestion de la chose publique au sommet de l'État. Et le triangle des enjeux également dans ce contexte écrit ce matin, à l'instar du tribunal militaire, et Sifori Nyasimbe créait un tribunal spécial pour les crimes économiques. Alors, Sylvestre Béni, la question reste posée. Aujourd'hui ou demain, on saura le montant du préjudice dont le ministre ADG est victime lors de son vol. Et on verra clairement si un individu, ministre ou pas, peut détenir une certaine quantité d'argent à son domicile.
Oui, je crois qu'à ce niveau aussi, la société civile peut rester en justice. Oui, parce que c'est de leur droit également. Pour savoir combien le montant réel et donc en fonction des dispositions de la loi que des dispositions que nous avons au Togo, donc là on saura donc la fin. Pourquoi est-ce que maintenant, si le montant est excessif, est-ce qu'il doit trésoriser, s'il doit garder ce montant là chez lui dans sa maison de campagne? Il faut également qu'on fasse la précision. Donc il y a tous ces éléments là que je crois que la société civile peut se tout saisir également et rester en justice. Maintenant, en ce qui concerne donc le montant, bon, je crois que seul lui, je paie même seul lui pourra nous le dire. Maintenant, je crois que j'ai même oublié la fin de ta question, parce que c'était quoi la deuxième partie de la question.
Moi-même, je
voilà quoi.
Bon, non, moi, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que
Adjeye, il est ministre, nous sommes d'accord, mais c'est un citoyen, il est aussi libre de porter plainte comme il veut. Il n'est pas obligé d'avoir le même tempérament que le chef de l'État, que le ministre Bawara, qu'on a traîné dans la boue, les yarks et tout ça. Il est libre de ne pas faire comme eux. Mais quand il porte plainte, faut pas qu'on sente une certaine particularité au niveau de lui, ses plaintes. Il n'est pas le seul à porter plainte. Même la PM a porté plainte contre Liberté. Non, Liberté est où?
En liberté.
Oui. Oui, pourquoi quand c'est lui, le schéma est déjà calé. On t'amène à la BRI. Au début, on fait comme si c'est à l'amicale et puis on cause, tout est calme. Vers 18h, on dit amène tes portables et puis bon, après on dit bon, on est obligé de te garder pour que le lendemain on poursuive. Pourquoi? Alors que tu es venu librement. C'est la question que moi je pose. Mais tout c'est là où il faut qu'on nous clarifie. Parce que moi j'ai bien peur qu'il y ait une certaine instrumentalisation des unités. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens instrumentalisent certaines institutions de l'État pour régler des comptes à des gens. Non, parce qu'il y a 2 ans, ça s'est déjà passé de la même manière. Et cette année encore, et on a l'impression qu'il est sûr que les gens iront en prison. Sans aucun procès. Ces gens-là pouvaient continuer la procédure normalement jusqu'à ce que, même s'il y a un procès, on verra ce que ça va donner. Mais là, sur la question du montant, seul le voleur et le volé peuvent vous donner le montant, peut-être. Quand tu dis on se range, on peut ne pas savoir. Il revient à DG de nous dire, c'est pour ça que quand les confrères disaient nous avons la preuve, je me demandais quelle preuve ils vont brandir. Il n'y a qu'à DG qui peut dire voilà combien j'avais, ou il n'y a que le voleur qui va dire c'est tel montant j'ai pris. Mais de ce qui est sûr, c'est qu'il y avait l'argent à la maison, et ceux qui ont volé ont réalisé de telles grandes. Ils sont pas allés seulement en boîte avec, ils ont réalisé des choses, même ils embauchent des gens. Mmh. Ça aussi, c'est pas très négatif. C'est comme, comment on appelle un Robin des Bois. Donc, ça va être difficile de demander aux journalistes d'apporter. Il y a eu vol. Maintenant, je ne pense pas que la polémique autour du montant soit un élément capital pour qu'on puisse garder des gens comme si on les laissait, c'est des gens dangereux qui peuvent vous proposer du dommage. Merci. À la
alors,
société.
Alors, les conséquences de ce phénomène à Bassissaka, c'est que cela peut nous amener, nous journalistes, à davantage d'autocensure. Hein, les gens vont réfléchir par 2 fois avant de sortir des articles croustillants sur certaines autorités, et si ce n'est carrément la presse de pertinence positive qui risque de prendre un coup.
Ouais, c'est pour cela qu'on dit, par rapport à ce fait qui est lié aux réseaux sociaux, qu'on puisse revoir cette question des tests qui nous gouvernent dans notre profession. Mais le problème, c'est que quand les journalistes ont fait cette dénonciation, on a évolué, on a dit il y a un vol. Qu'est-ce que le procureur de la République a fait? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'auto-saisir?
Justement, les députés Jerry Tama et Abbas Kaboua ont demandé au procureur de s'auto-saisir pour nous faire voir la vérité grand V dans cette affaire.
Voilà, c'est lui qui devait s'auto-saisir et nous faire voir la vérité grand V, au lieu qu'on prenne nos confrères pour les envoyer dans une prison pour dire qu'ils n'ont qu'à apporter les preuves de ce qu'ils qu'ils ont dit qu'on a volé. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est ce même monsieur ministre qui est allé en week-end faire des prêches demandant aux gens, quel que soit ce qu'on vous fait, il faut pardonner. Tout ce que, même si les offenses, n'importe comment, il faut pardonner.
Faites ce que je vous dis de faire.
Ne faites pas ce que je fais.
Merci. On ne continue plus. Merci beaucoup. Mais l'autre question demeure. Oui. C'est un auditeur. Mmh. Comme j'ai le bonheur d'avoir le président de l'OTM ici, un auditeur voudrait savoir qu'est-ce que les organisations de presse du Togo ou d'ailleurs peuvent-elles continuer à faire pour que Loïc et Anani retrouvent leur liberté.
Oui, mais parfois les Togolais ont la mémoire très courte. Nous avons rappelé des faits aujourd'hui. Nous sommes en 2023. En 2021, nous avons eu une situation similaire avec 2 confrères. Deux qui étaient gardés.
C'était Ferdinand Haïté, Isidore Kouonou et Feu Joël Kossi-Vignon-Ega.
Nous sommes allés Et finalement, vous avez vu, après, quand les confrères sont sortis, ils sont allés faire une émission où ils ont ravalé leur crachat. Ça, c'est la pire des humiliations pour un journaliste. Et tout ça, c'était pour mériter quoi? Le pardon. La suite, c'est quoi?
La prison.
Quelle prison? Prison même, ça aurait été mieux. C'est l'exil.
Ils sont à l'exil.
C'est l'exil. Bon, aujourd'hui, moi, lundi, j'ai discuté avec... j'ai dit, bon, cette histoire de preuve, pour l'instant, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut négocier et tout cela? Mais c'est... On a une jurisprudence où on sent que tu peux aussi te lancer dans des négociations. Tu vas aller faire prendre des engagements à des gens. Mais après, rien. Après, rien. C'est un peu cela. Et aujourd'hui, depuis lundi, il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues dans cette affaire. Mais le ministre n'a pas bougé d'un iota. Il paraît qu'il est très en colère. Et il n'a pas bougé d'un état sur sa position. La preuve, la situation des camarades... ne s'est pas amélioré. Bon, maintenant, les ministres sont intervenus. Il paraît que deux présidents des institutions sont intervenus. Ça n'a rien donné. J'aime bien qu'on surestime le poste que j'occupe. Oui, président de l'OTM. Ouais, bon, je n'ai pas une baguette magique pour agiter, pour faire sortir quelqu'un de prison. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand vous avez en face quelqu'un qui veut rien, même ses collègues l'ont appelé, on a des éléments. Bon, le gars dit niette. Moi, je dis aujourd'hui, il n'y a que le chef de l'État qui peut faire changer d'avis à Adéjé.
Merci beaucoup. Ou tout au moins, que Loïc et Anani soient rapidement jugés, hein, afin qu'ils voient s'ils seront innocentés ou malheureusement condamnés. Mais depuis là où ils sont, s'ils nous écoutent, Loïc et Anani, vous avez notre soutien ici au Club de la Presse. Et puis, l'autre leçon aussi, Sylvestre, c'est pas de l'autocensure, mais c'est davantage de professionnalisme de notre part. Il faudra que nous assurions au maximum de preuves avant d'écrire ou bien de parler de celui-ci ou bien de celui-là.
Oui, je crois que c'est évident. C'est évident. Donc, avant donc de produire, il faudrait... mieux fouiller, mieux fuiner, voir tous les contours possibles donc de l'affaire avant donc de créer. Je crois que pour l'instant les journalistes togolais le font très bien. Je crois, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on a vu que dans certains pays, j'ai vu sur un journal camerounais où on a mis même une phrase qui descend pratiquement le chef de l'État. Ici, personne ne le fait. Personne ne le fait. J'ai écouté un journaliste français qui dit que Macron est suffisamment bête, que c'est un idiot. Est-ce que vous avez une fois écouté un journaliste togolais prononcer de telles phrases? Non. Nous faisons quand même de nos mieux pour être professionnels possible. Mais il faudrait quand même qu'on puisse nous accompagner. Vous savez, personne n'est infaillible. On peut tomber, mais le mieux, c'est de nous relever. Mais faut pas qu'à chaque fois qu'on tombe, certains sont peut-être derrière pour nous enfoncer ou mettre donc leurs genoux sur nos coups.
Là, merci, il nous reste 6 minutes. Je voudrais quand même qu'on termine.
Hein, oui, je crois que même on aurait fait une partie si également on ne dit pas un mot. Effectivement, vous avez posé la question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses? Oui. Aujourd'hui, nous avons un code de la presse qui est clair. Les réseaux sociaux n'entrent pas dans le champ d'application de ce code-là. Tout le monde le sait. Donc, quand vous allez les utiliser, effectivement, on n'interdit pas aux journalistes d'utiliser les réseaux sociaux. Mais on leur dit, si tu les utilises et si tu as un problème, on ne te reconnaît pas le statut de journaliste. Même si c'est une aberration, c'est la loi. La loi reste la loi. Tant qu'on ne l'a pas modifiée, c'est la loi et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte pour ne pas se retrouver toujours dans les mêmes situations. On ne dit pas aux gens de faire de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, des faits que vous voulez balancer dans le public. C'est tout simplement cela.
Merci, merci. Nous allons quand même terminer en évoquant rapidement quelques articles de vos parutions. Basisaka, le Manian Libéré nous rappelle cette triste réalité, à savoir que l'alcool et la drogue, c'est une réalité chez les jeunes. Un cocktail explosif. Alors, on voit la ministre Myriam Doussou sur le terrain. Cette action doit être vraiment prise à cœur par les municipalités.
Oui, effectivement, c'est la nouveauté de son action. les nouvelles mesures qu'elle a prises, c'est d'associer les mairies, les communes, à cette lutte contre la drogue. Je pense qu'il faudrait aussi des organisations de la société civile qui le faisaient auparavant, on savait, qui allaient sensibiliser les personnes qui vivent dans des taudis, dans les ghettos, et qui prennent de la drogue et de l'alcool. Depuis quelque temps, le gouvernement a pris sur lui de combattre ce genre de pratique, cette pandémie, qu'ils appellent la pandémie, ça devient une pandémie parce que c'est un truc contre la santé publique. Et les maires.
Mais là, à ce niveau-là, le résultat reste très mitigé. Les ghettos se multiplient,
ça se multiplie
au jour le jour, au vu et au su de tout le monde. Mais on ne sent justement pas l'action publique.
Mais c'est pour cela que maintenant, quand la ministre du Développement à la Base et de la Jeunesse a décidé d'associer les maires, j'ai trouvé ça que c'est une initiative très intéressante pour qu'ils vont aller, comme nous avons la décentralisation, ils peuvent aller identifier les ghettos.
Oui.
Pour la réinsertion de ces personnes.
Merci. Article à lire, comme cet autre article de la Manchette qui nous parle d'une autre flambée, c'est les AVC et même les suicides. Sylvestre Béni, la Manchette nous parle des ondes de ces deux périls.
Oui, en réalité, parce que lorsque vous voyez un peu le rapport 2021 donc de l'OMC, le Togo est le 8e pays africain où l'on se suicide le plus.
8e sur 54 pays.
C'est inquiétant. Et puis, nous avons réussi donc à faire un cocktail donc des suicides par pendaison en 2019 où nous étions à 56 cas de suicides uniquement par pendaison, c'est-à-dire la forme la plus violente de se donner la mort. Et les Togolais, c'est comme si ça devient malheureusement donc la mode où les Togolais, une fois stressés, quand ils ont encore quelques soucis après les dépressions, hein, on prend une corde et puis on se donne la mort. Je crois que c'est un phénomène inquiétant. Il faut véritablement que qu'on puisse changer un peu de paradigme pour qu'au niveau donc de l'économie, que les parce qu'il est évident, hein, il se trouve que les Togolais souffrent beaucoup, surtout financièrement et économiquement. Donc les gens préfèrent se donner la main pour partir. Puis concernant donc l'AVC, oui, selon donc les professionnels de santé, nous avons 4000 cas par an. Je crois que ça aussi, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Pourquoi est-ce que on a ce fort taux-là? Je crois que c'est vrai que les médecins peuvent trouver donc des origines médicales et tout, mais aussi, bon, le stress et tout ça aussi, la manière dont les péripéties de la vie, le quotidien du Togolais aussi, peut également expliquer cela. Parce que lorsque vous vous levez et que, bon, vous regardez de gauche à droite, il n'y a rien, il n'y a pas un soutien, il y a ça. Une fois que la tension monte, vite.
Merci.
Vous êtes candidat
autre à l'AVC. Un autre également, voilà, qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, mais qui nous envahit, c'est les jeux d'argent, les jeux de hasard.
Ouais.
Ça pullule dans tous les quartiers.
Ouais, ouais.
Vous voyez les jeunes,
oui,
vous voyez les vieux, vous voyez les femmes, vous voyez les enfants qui vont s'aligner devant les guichets, devant les jeux du hasard.
Là,
nous y reviendrons. Mais je voudrais qu'on termine sur une note sportive. Il y a quelque temps, le Togo a adhéré au Commonwealth, la communauté des pays de langue anglophone. Et puis, la dernière nouveauté, enfin, la dernière évolution, Fabrice, comme le libéral nous le rappelle, c'est le Togo maintenant, l'adhésion du Togo aux jeux du Commonwealth est actée par la présence du président du Comité national olympique du Togo qui a été à cette instance.
Oui, je crois que ça fait partie des retombées donc de cette décision au plus haut niveau d'adhérer à la Commonwealth que les autorités togolaises ont initiée. Et donc, une fois que cette adhésion est actée, ça donne lieu à beaucoup d'avantages sur le plan économique, culturel et autres, et également sportif, puisque dorénavant, avec cet acte qui vient d'être posé, le Togo peut présenter des athlètes aux Jeux du Commonwealth qui sont très souvent organisés également. Donc nous disons que c'est une bonne chose quand même pour la jeunesse togolaise à travers le sport qui peut se retrouver également.
Allez, surtout nous ramener des médailles.
Oui, surtout ça.
Il est midi passé de une minute. Nous marquons la pause et après nous rebondissons avec vous. Vous pouvez déjà vous préparer à composer le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75. 13.5. Canal FM. Eh bien, c'est parti sur les deux numéros. Vous avez écouté les sujets dont nous avons débattu. L'armée malienne qui vient d'entrer à Kidal avec tout le meilleur que nous souhaitons au Mali, au Burkina et au Niger. Et les questions de santé, notamment le diabète, et puis les suites de l'affaire de vol au domicile du ministre ADG et ses articles que nous avons évoqués pour terminer. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Oui, c'est clair.
Oui.
Ok, d'abord, félicitations pour l'armée malienne qui a fait ce que la France et la communauté nationale, tout ça, là, n'ont pas pu faire. On l'a souvent dit que c'est la France tout ça, là, qui installe le djihadisme en Afrique pour piller nos ressources. C'est clair et net que les ex-djihadistes sont des ressources en Afrique. Bon, deuxième point, c'est concernant les journalistes qui sont déjà en prison, qui sont privés de leur maison.
Allô, Pelé?
Oui, allô.
Oui, oui.
Le journaliste a fait la l'article. Il est responsable de ces propos, de ces écritures. Je ne sais pas si on accuse, si ce qu'on accuse aux journalistes, qu'ils ont augmenté l'argent, que l'argent fait 400 millions. Ou bien, si c'est 800 millions, et que les journalistes ont dit que c'est 150 millions, on va les arrêter. Merci.
Je vous en prie, sauf que ils n'ont pas, c'est pas une information qu'ils ont publiée dans leurs journaux traditionnels, mais plutôt sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ne leur applique pas le code de la presse, mais plutôt le code pénal. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour mon patron.
Oui, Patrick.
Comment vous allez ce matin?
Bon, le moral n'est pas très haut, vous comprenez pourquoi?
Oui, je comprends, mais ça ira.
Ok.
Premièrement, j'aimerais envoyer un message fort à l'ambassade du Mali au Togo.
Voulez-vous diminuer un peu le volume de votre poste récepteur?
D'accord. Je disais que je voudrais quand même envoyer un message fort à l'ambassade du Mali au Togo, en ce sens de leur présenter vraiment cet encouragement pour ce qui vient d'être fait au Mali. Mais le reste est à venir. C'est bien une chose d'avoir Kidal dans l'État malien. Mais la suite, parce que ces djihadistes disent qu'ils ne vont pas partir comme ça, qu'ils vont revenir. Donc,
non, ils ont dit pire. Ils ont dit qu'ils ne partiraient jamais de Kidal. Ils viennent d'en être délogés. Vous savez, voilà, ce que les gens disent et font, il y a toujours une certaine distance.
Voilà, donc en somme, c'est pour leur dire de mieux se préparer en cas d'attaque éventuelle. Ça, c'est un. De deux, concernant le diabète dont vous avez fait cas. L'invité est toujours là.
Il est là.
Voilà. Et entre-temps, on avait reçu un grand monsieur qui nous parlait des avantages de son produit concernant le diabète. C'est pour voir. C'est vrai que c'est une maladie maintenant qui fait rage. Les jeunes même, maintenant il n'y a plus une tranche d'âge qui est épargnée. Mm-hmm. Donc ce monsieur qui avait dit que lui-là, c'est-à-dire ce produit-là.
La recette miracle. Vous rappelez le nom du monsieur?
C'est monsieur Togu Dangban.
Ok.
Qui avait émis un produit vraiment qui traite correctement parce que ma soeur avait utilisé et qu'elle a eu cette satisfaction. C'est pourquoi j'en parle.
Ok. Nous allons convoquer Togu Dangban sur le sujet.
En fait, d'accord.
Pas convoquer à la police ou à la justice, mais l'inviter ici. Pour qu'il vienne nous parler de nouveau de son produit.
Voilà, pour finir maintenant.
Oui, finissez rapidement.
Voilà, monsieur Sass, pardon. Une chose est là, c'est qu'il y a eu le vol. Ou bien, il y a eu le vol, vrai ou faux?
Oui, vrai.
Est-ce que les voleurs sont aussi attendus à la PRI? Je ne vois pas pourquoi on laisse les voleurs, on vient accuser celui qui a parlé.
Certains des voleurs ont déjà été arrêtés. Et la procédure suit sur son cours là-bas. À la brigade de Thévier.
Monsieur Sass, entre le voleur et celui qui a parlé, qui serait plus accusé? Non, je ne vois pas là.
Merci Patrick. Vous êtes gentil de passer le micro à ceux qui attendent aussi en ligne. Bonjour.
Allô.
Oui. Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour. Notre n'a pas le retour. Oui, bonjour. Non, il n'a pas le retour. Je suis vraiment désolé pour lui et pour moi-même.
Salam alaikum, monsieur Sass.
Monsieur Waris.
Monsieur Sass.
Nous vous écoutons.
Oui, je salue tout le plateau.
Merci.
Et c'est concernant l'affaire de du vol. Et bon, monsieur Sass, et cela m'étonne que jusqu'à présent, il n'y a que deux personnalités qui se sont prononcées sur le sujet de personnalité politique.
Les bon, députés Djeri Tama et Abbas Kamoua.
Oui.
Il y a également la société civile. Hein?
Effectivement. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres qui se disent, bon, opposants. Et bon, je ne sais pas ce qui se passe. Et ce que moi je vais dire aujourd'hui, sincèrement, je vais m'adresser au ministre à dire que cette affaire-là n'arrange personne. Et les médias internationaux comme RFI en parlent déjà. Et chaque fois, c'est comme c'est lui qui envoie les journalistes ou soit en exil ou en prison. Donc, je pense que le linge sale doit se laver en famille. Donc, je prie le ministre Adéguié de revoir la situation.
Merci.
Maintenant,
oui.
Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, je félicite l'armée malienne aujourd'hui pour l'effort, tout ce qu'ils l'effort mené sur le terrain. Et cela prouve que aujourd'hui nous devons faire confiance à l'armée. Aujourd'hui, nous devons faire confiance à notre armée.
Nous avons toujours fait confiance à notre armée et nous lui demandons toujours d'être à nos côtés pour nous défendre. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô, allô, allô?
Oui, bonjour.
Oui.
Comment?
Comment?
Oui.
Vous voulez vous parler un peu plus fort?
Ok. Monsieur Sass, j'aimerais passer par votre canal pour dire à l'armée malienne que c'est une victoire d'étape qui a encore du chemin à faire.
Mm-hmm.
Donc, qu'il soit plus fier et qu'il aille plus loin.
Merci.
Deuxième préoccupation, c'est la question de vous, les journalistes. Nous sommes de cœur avec vous. Et je fais l'analyse suivante. Berry, dont on parle là, la signification, c'est brigade de recherche et d'investigation, non?
Oui.
Dans l'affaire, est-ce qu'il y a une question d'investigation par rapport aux deux journalistes? Deuxième préoccupation, s'il faut convoquer quelqu'un, je pense que c'est la territorialité qui est utilisée. Pourquoi on ne convoque pas les deux au ressort du territoire de leur domicile? Et je rappelle au ministre qu'il a fait fuir Ferdinand Haïté, qui reçoit une distinction présentement à New York. Alors, s'il y a des faits à reprocher aux journalistes, vous dites qu'il y a des velléités. Certes, on ne peut pas à chaque fois contourner les bonnes manières. Pour aller plus loin, je vais interpeller le président de la République. Vous savez, le statut de douanier, de commissaire, de ministre, la personne aura de l'argent. Ça, il ne faudrait pas qu'on se cache. On ne peut pas cacher le soleil avec la paume de main. Et en cela, s'ajoute l'affaire Petrolgate. Tout récemment, l'affaire de Covid-19, où ce ministère nous a commandé plusieurs milliards de riz. Donc, quand on dit il y a de l'argent qui est perdu dans la maison de cette personne, il ne faut pas cacher le soleil. Peut-être avec le temps, tout reste à savoir. Un élément aussi crédible, le président, vous avez fait renvoyer le commissaire à Doi lorsqu'il a fêté pour son enfant. Vous vous rappelez?
Au moment de la Covid.
Merci.
Pour non-respect des mesures d'urgence sanitaire à l'époque.
Ceux qui nous dirigent là, vous avez de l'argent. Nous savons que vous avez de l'argent. Donc, ne cachez pas le soleil. Aidez-nous à évoluer. Pour finir, quand il y a la question de vol dans la circulation et qu'on vous indexe, qu'est-ce que le voleur fait? Il sort ses poches pour témoigner qu'il n'a rien volé. Et on le libère. On ne s'attaque pas à celui qui crie. Merci.
Je vous en prie, Komi. Mais selon la loi togolaise, si vous m'accusez de vol, c'est à vous de démontrer que j'ai effectivement volé. Et puis, vous savez que les gens sont riches, mais il n'y a pas de délit de richesse. Hein. Quand quelqu'un est riche, il n'a pas encore commis un crime. Peut-être c'est la façon dont il s'est enrichi qu'on va explorer. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, grand professeur.
Oui.
Benoît Dagouet.
Benoît Dagouet, nous écoutons.
Moi, j'aimerais poser une question. Dans la déclaration des biens, est-ce que le ministre a mentionné l'argent dans la déclaration des biens? C'est apprécié de nous dire maintenant, d'ouvrir l'enveloppe, de dire si vraiment, comme le ministre ne dit pas la somme, de nous dire vraiment si l'argent qui a été volé dans la maison du ministre a été mentionné dans la déclaration des biens.
Bon, là, ne faisons pas de confusion. Hein. Bon, c'est une obligation pour les plus hautes autorités de déclarer leurs biens et avoirs. Sauf que je ne sais pas si le ministre ADG s'est plié à cette obligation devant la médiateur de la République ou devant la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas trop.
Ok, donc si je comprends, le ministre ADG n'a pas déclaré ses biens.
Je dis, je n'ai pas les preuves qu'il a déclaré ses biens devant le médiateur de la République ou devant la Cour constitutionnelle.
Ok. Bon appétit à tout le monde.
Merci à vous aussi. Le suivant, bonjour.
Bonjour les journalistes, c'est Abdel.
Abdel.
J'aimerais féliciter Fabrice pour ses interrogations et vous donner quelques exemples. Je me rappelle sur votre chaîne, entre 2011 et 2012, le ministre d'État, il faut que je le précise, Pascal Boudjona, appela sur votre en direct dans l'émission pour clarifier une situation évoquée par un journaliste et rétablir la vérité.
Je me rappelle.
Et en direct, le journaliste a présenté ses excuses, a demandé pardon au ministre Boudjona. Mais vous connaissez le ministre Boudjona à ce moment? On l'appelait le vice-président. Mais
on l'appelait le ministre grand format.
Oui, il n'avait pas cette arrogance du pouvoir, comme ADG. ADG, il est trop très arrogant.
S'il vous plaît, Abdel.
Je le dis et je suis responsable
Abdel,
de ce que je dis.
Abdel.
Oui.
Hein, ADG, c'est un grand commis de l'État. Il a droit à notre respect, à notre
confiance. Ça, c'est le premier exemple. Okay. Le deuxième exemple, nous avons assisté au procès de Katanga et bien avant ce procès, nous avons assisté à tout ce qui a été dit, où on dit qu'on a retrouvé plus de 81 milliards chez lui. Est-ce que Katanga a convoqué un journaliste pour ça? Nous avons assisté également, le troisième exemple, quand Noël Bataka était ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Mais est-ce que ces personnalités-là ont assigné un journaliste? Pourquoi c'est toujours lui? Lui est ADG. Qui se dit un homme de Dieu, qui se cache derrière l'image de Dieu pour bâillonner ses propres frères de même pays de cette façon. Et le président de la République le laisse faire. Mais on est dans quel pays?
Merci Abdel.
On est dans quel pays?
Abdel,
non mais je te dis la vérité.
Abdel, maîtrisez votre colère. On peut être vraiment énervé, mais ne pas céder à certains degrés. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour Monsieur Sass.
Oui.
Monsieur Combatté. Oui.
Vous savez, les combattants, c'est comme les AKP aussi, là. Ils sont tellement nombreux. C'est quel combattant, vous?
C'est combattant d'Avenou.
Combattant d'Avenou, voilà.
Oui. Et hier, c'est toujours par rapport au ministre ADG.
Mm-hmm.
Nous n'avons rien contre lui. C'est notre point de vue qu'on donne aussi. D'abord, Eric Johnson, hier, faisait un cours de journalisme comme s'il était un avocat de M. ADG. Je dis, mais si votre confrère a un souci, vous devez plutôt, s'il y a quelqu'un en interne, lui donner des conseils, dire, ah, ça, il ne parlait pas. Mais ce n'est pas au moment que la personne est gardée.
L'ami combattu.
Il faut faire un cours de
s'il plaît, monsieur combattu, le Club La Presse est une tribune où nous disons tout, l'essentiel que ce soit justifié, liberté du ton. Comprenez que tel invité aborde le sujet sous tel angle. L'essentiel, c'est que ce soit bien dit et que la courtoisie y soit.
Ok. Ceci étant, maintenant, par rapport au ministre, il tire quel plaisir en traquant les choses, les journalistes. Il tire quel plaisir. Mais il n'est pas le seul ministre, même envers le chef d'État, beaucoup de gens disent des choses qui ne sont pas vraies, mais le chef d'État même, il n'en fait pas quand même des cas de, comme il fait. Je crois que monsieur Forgne Sindé doit vraiment le discipliner. Parce que ce qu'il fait, c'est dangereux maintenant pour la politique du président de la République.
Merci à vous, monsieur Compaté. Merci à tous ceux qui ont pu entrer en ligne. Souffrez qu'on s'arrête là. Le verdict du temps nous l'impose. Rapidement, tour de table, une minute à chacun pour vos impressions servant de conclusion de cette émission. Abbas Issaka.
Ouais, je pense que les auditeurs qui nous ont suivis, ils ont dit c'est amener quelqu'un en prison pour des choses qu'on pouvait régler sur la table. C'est un peu difficile. Parce que M. Adéji, le ministre Adéji, il est ministre d'État. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle quelqu'un ministre d'État. Il pouvait faire amende honorable. Parce que ce qui s'est passé en 2000, il y a deux ans, 2021, les gens peuvent dire que même si après que c'est après trois mois ou quatre mois que leur libération, que l'autre est décédé, les gens peuvent dire qu'il doit avoir quelque chose sur sa conscience. Donc aujourd'hui, ceux-là aussi sont partis en prison. Après qu'ils les aient convoqués, passés par la BRI, et on les dépose à la prison civile. Bon. Si procès devait avoir, nous allons prier que ce procès puisse effectivement avoir lieu et dans les délais les plus possibles, parce qu'on ne peut pas encore parler de la lenteur au niveau de la justice. Mm-hmm. Que ce procès-là ait lieu
et que plus rapidement possible.
Plus rapidement possible, que chacun soit situé.
Merci. Fabrice?
Non, je dirais tout simplement que dans ce qui s'est passé, on a senti quand même que de part et d'autre, que ce soit au niveau des confrères, il y avait une sorte de défi que les gens se lançaient. Je peux assurer monsieur le ministre que il a gagné, parce que c'est lui qui a fini par mettre en prison les journalistes. Bon, on reconnaît sa victoire. Il a gagné. Et maintenant, il faudra qu'il comprenne que, oui, il a le pouvoir, il a réussi à mettre des gens en prison. Il est fort, oui, mais c'est Dieu seul qui est fort. Pour nous, êtres humains, nous n'avons que des situations favorables par moment de la vie qui nous donnent l'impression d'être forts. La preuve, on a des gens, il y a de cela seulement une semaine, qui avaient toute l'armée togolaise à leurs pieds, mais qui se sont également retrouvés dans des situations où aujourd'hui aussi peuvent être capables de demander pardon. Donc pour moi, si c'est pour dire que c'est lui qui a réussi à mettre les journalistes en prison, il l'a réussi. Ils ont passé deux nuits en garde à vue. Aujourd'hui, ils vont séjourner en prison. L'objectif est atteint pour lui. Maintenant, il peut songer à ce que ça ne s'éternise pas, parce que nous ne voulons plus revivre les mêmes situations que nous avons vécues il y a deux ans. Je crois que lui-même, c'est dans son intérêt. Aujourd'hui, le décès de notre confrère Joël Ega, personne ne dit que c'est X ou Y qui est responsable. Mais beaucoup dans l'opinion lient son décès à son passage au niveau de la prison. Il n'y a aucune démonstration scientifique, mais c'est ce que beaucoup pensent. Et je crois que quand il y a mort d'homme chez nous, à un moment donné, il faudra quand même qu'au niveau de notre conscience, qu'on comprenne que bon, il ne sert à rien d'aller jusqu'au bout. Donc pour l'instant, je dis oui, il a gagné. Il a gagné Loïc et Adani Sossou, qui disaient que bon, cette fois-ci, il ne va pas s'en sortir. Il s'en sort encore de nouveau. C'est lui qui gagne. Maintenant, ils sont allés en prison, ils ont goûté. Qu'ils fassent l'effort de les laisser, qu'ils rentrent chez eux. Parce que pour le reste, je ne sais pas ce qu'ils gagnent.
Merci. Basile?
Oui, Innocent. Je voudrais dire encore que la colère n'est pas bonne pour la santé. Je pense que beaucoup de gens sont en colère et ce n'est pas bien.
On a parlé d'AVC, on a parlé de stress. D'AVC,
tout ça, là, ça vient s'ajouter. Donc, je reviens sur le diabète parce que c'est pour ça que je suis là. Dire que la situation au Togo est un peu effarante. Nous devons faire cet effort. Aujourd'hui, notre manière de manger, de s'alimenter pose problème. On parle des maladies de la civilisation, dont le diabète. Et donc, aujourd'hui, chacun doit faire cet effort-là. S'inscrire dans la prévention, c'est de manger moins sucré, moins gras, moins salé. Et de faire les activités sportives. Aujourd'hui, le diabète ne se guérit pas comme le paludisme. Mm-hmm. Mais si on se soustrait et puis on fait aussi des choses à travers, on va revenir encore sous le coup.
Autrement dit, donc, mieux vaut prévenir que guérir.
Tout à fait.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons bon appétit, bonne dégustation. C'est selon le Club La Presse. Espère nous retrouver tous ensemble et en liberté demain jeudi.